Montesquieu écrit, interprète le droit. Voltaire pleure et crie pour le droit. Et Rousseau le fonde. Beau moment où, surprenant Voltaire accablé d'un nouveau malheur, le désastre de Lisbonne, Voltaire aveuglé de larmes et ne voyant plus le ciel, Rousseau le relève, lui rend Dieu et sur les ruines du monde proclame la Providence. Car c'est bien plus que Lisbonne, c'est le monde qui s'écroule. La religion et l'État, les mœurs et les lois, tout périt. Et la famille où est-elle? L'amour, l'enfant même, l'avenir? Oh, que faut-il penser d'un monde où finit l'amour maternel? Et c'est toi, pauvre ouvrier ignorant, seul, abandonné, haï des philosophes, haï des dévots, toi, malade en plein hiver, mourant sur la neige dans ton pavillon tout ouvert de Montmorency, toi qui veux résister seul, écrire, l'encre gèle à ta plume, réclamer contre la mort. Est-ce donc avec ton épinette et ton devin du village, pauvre musicien, que tu vas nous refaire un monde? Tu avais un filet de voix, de l'ardeur, une chaude parole quand tu arrivas à Paris, riche de ton pergolèse, de musique et d'espérance. Il y a déjà longtemps, tu as bientôt un demi-siècle, tu es vieux, tout est fini. Que parles-tu de reconnaissance à cette société mourante quand toi-même tu n'es plus? Oui, c'était vraiment difficile, même pour un homme moins cruellement maltraité du sort, de tirer le pied du sable mobile de la boue profonde où tout allait s'enfonçant. Où prit-il son point d'appui, l'homme fort qui, frappant du pied, s'arrêta, tint ferme, et tout s'arrêta? Où il le prit, ô monde infirme, homme faible et malade qui le demandait, ô fils oublieux de Rousseau et de la Révolution? Il le prit en ce qui chez vous a trop défailli, dans son cœur. Il lut au fond de sa souffrance, il lut distinctement ce que le Moyen-Âge n'a jamais pu lire, un Dieu juste. Et ce qu'a dit un glorieux enfant de Rousseau, le droit est le souverain du monde. Ce mot magnifique n'est dit qu'à la fin du siècle. Il en est la révélation, la formule profonde et sublime. Rousseau l'a dite par un autre, par Mirabeau, et elle n'en est pas moins le fond du génie de Rousseau. Du moment qu'il s'est arraché de la fausse science du temps, d'une société non moins fausse, vous la voyez poindre dans ses écrits cette belle lumière, le devoir, le droit. Elle brille avec tout son éclat, sa douce et féconde puissance, dans la profession de foi du vicaire savoyard. Dieu, même soumis à la justice, Dieu, sujet du droit, disons mieux, Dieu et droit sont identiques. Si Rousseau eût parlé dans les termes de Mirabeau, sa parole n'eût pas agi. Autre temps, autre besoin. À un monde prêt pour agir, le jour même de l'action, Mirabeau dit « Le droit est le souverain du monde. » Vous êtes les sujets du droit. À un monde endormi, encore faible, inerte et sans élan, Rousseau dit et devait dire « La volonté générale, c'est le droit et la raison. » Votre volonté, c'est le droit. Réveillez-vous donc, esclave. Votre volonté collective, c'est la raison elle-même. Autrement dit, vous êtes Dieu. Et qui donc, sans se croire Dieu, pourrait faire aucune grande chose? C'est ce jour-là que vous pouvez, tranquille, passer le pont d'Arcole. C'est ce jour qu'on s'arrache, au nom du devoir, son plus cher amour, son cœur. Soyons Dieu. L'impossible devient possible et facile. Alors, renverser un monde, c'est peu, mais on crée un monde. Et voilà ce qui explique pourquoi ce faible souffle, sorti d'une poitrine d'homme, cette mélodie échappée du cœur du pauvre musicien, nous ressuscita. La France est remuée en ses profondeurs. L'Europe en est toute changée. La vaste, la massive Allemagne tressaille sur ses vieux fondements. Ils critiquent mais obéissent. Sentimentalité pure, disent-ils en tâchant de sourire. Ils n'en suivent pas moins, ces rêveurs. Les philosophes eux-mêmes, les abstracteurs de quintessence, vont malgré eux par la voix simple du pauvre vicaire savoyard. Et que s'est-il donc passé? Quelle lumière divine a donc lui pour faire un si grand changement? Est-ce la force d'une idée, d'une aspiration nouvelle, d'une révélation d'en haut? Oui, il y a eu révélation. Mais la nouveauté des doctrines n'est pas ce qui agit le plus. Il y a ici un phénomène plus étrange, plus mystérieux. Une influence que ressentent ceux-mêmes qui ne lisent pas, qui ne pourraient jamais comprendre. On ne sait d'où cela vient, mais depuis que cette parole ardente s'est répandue dans les airs, la température a changé. C'est comme si une tiède haleine avait soufflé sur le monde. La terre commence à porter des fruits qu'elle ne donnait jamais. Qu'est-ce cela? Si vous voulez que je vous dise, C'est ce qui trouble et fond les cœurs. C'est un souffle de jeunesse. Voilà pourquoi nous cédons tous. Vous ne prouveriez en vain que cette parole est trop souvent faible ou forcée parfois d'un sentiment vulgaire. La jeunesse est telle, telle la passion. Telle nous fut, mais si parfois nous retrouvons là les faiblesses de notre jeune âge, nous n'y ressentons qu'au mieux le charme doux et amer du temps qui ne reviendra plus. Chaleur, mélodie pénétrante, voilà la magie de Rousseau. Sa force, comme elle est dans les mines et le contrat social, peut être discutée, combattue. Mais par ses confessions, ses rêveries, par sa faiblesse, il a vaincu. Tous ont pleuré. Les génies étrangers, hostiles, ont pu repousser la lumière, mais ils ont subi la chaleur. Ils n'écoutaient pas la parole, la musique les subjuguait. Les dieux de l'harmonie profonde, rivaux de l'orage qui donnait du Rhin aux Alpes, ont eux-mêmes ressenti l'incantation toute puissante de la douce mélodie, de la simple voix humaine, du petit chant matinal, chanté la première fois sous la vigne des Charmettes. Cette jeune et touchante voix, cette mélodie du cœur, on l'entend, quand ce cœur si tendre depuis longtemps dans la terre. Les confessions qui paraissent après la mort de Rousseau semblent un soupir de la tombe. Il revient, il ressuscite, plus puissant, plus admiré, plus adoré que jamais. Ce miracle, il l'a de commun avec son rival, Voltaire. Rival, non. Ennemi, non. Qu'il soit à jamais sur le même piédestal, les deux apôtres de l'humanité. Voltaire, presque octogénaire, enterré aux neiges des Alpes, brisé d'âge et de travaux, ressuscite aussi pourtant. La grande pensée du siècle inaugurée par lui doit être fermée par lui. Celui qui ouvrit le premier doit reprendre et finir le cœur. Glorieux siècle, qu'il mérite d'être appelé à jamais l'âge héroïque de l'esprit. Voici un vieillard au bord du tombeau. Il a vu passer les autres, Montesquieu, Diderot, Buffon. Il a assisté au violent succès de Rousseau. 3 livres en 3 ans. Et la terre s'est tue. Voltaire n'est point découragé. Le voici qui entre, vif et jeune, dans une carrière nouvelle. Où donc est le vieux Voltaire ? Il était mort, mais une voix l'a tiré, vivant du tombeau, celle qui l'avait toujours fait vivre, la voix de l'humanité. Vieil athlète, à toi la couronne, te voici encore vainqueur des vainqueurs. Un siècle durant, par tous les combats, par toute arme et toute doctrine, opposée, contraire, n'importe, tu as poursuivi sans te détourner jamais un intérêt, une cause, l'humanité sainte. Et ils t'ont appelé sceptique. Et ils t'ont dit variable. Ils ont cru te surprendre aux contradictions apparentes d'une parole mobile qui servait la même pensée. Ta foi aura pour sa couronne l'œuvre même de la foi. Les autres ont dit la justice, toi tu la feras. Tes paroles sont des actes, des réalités. Tu défends Calas et la barre. Tu sauves Sirvaine, tu brises l'échafaud des protestants. Tu as vaincu pour la liberté religieuse et tout à l'heure pour la liberté civile, avocat des derniers serfs, pour la réforme de nos procédures barbares, de nos lois criminelles, qui elles-mêmes étaient des crimes. Tout cela, c'est déjà la révolution qui commence. Tu l'as fait et tu la vois. Regarde, pour ta récompense, regarde, la voilà là-bas. Maintenant, tu peux mourir. Ta ferme foi t'a valu de ne point partir d'ici-bas avant d'avoir vu la Terre Sainte.